Chers frères et sœurs, ça nous fait du bien d'entendre ces paraboles de Jésus qui reviennent périodiquement. Aujourd'hui, à partir de cette parabole, en particulier de la parabole qu'on appelle habituellement la parabole de l'ivraie, je vais essayer de vous dire trois choses. D'abord, est-ce que c'est vraiment la parabole de l'ivraie ? La deuxième chose, c'est sur la patience, voilà, qui est développée. Et la troisième, sur la miséricorde. Donc d'abord, est-ce que c'est vraiment la parabole de l'ivraie ? Il me semble que déjà en donnant ce titre, on donne une connotation particulière. Parce que finalement, l'important, ce n'est pas l'ivraie, c'est le bon grain. Et ce qui est au début, c'est le bon grain, ce qui est à la fin, c'est le bon grain. Entre les deux, il y a l'ivraie, et puis finalement, elle finit au feu. Mais ce qui est intéressant, c'est le bon grain. Et il me semble que c'est important, ça serait important de l'appeler plutôt la parabole du bon grain, en quelque sorte, parce que on a tendance à se focaliser sur le mal. Ce qui est important, ce n'est pas le mal. Ce qui est important, c'est le bien. Ce qui est important, ce n'est pas le diable qui a à se mêler. Ce qui est important, c'est Dieu. Et du coup, déjà, on fausse un peu notre regard en l'appelant la parabole de l'ivraie. Ce qui est important, c'est le bon grain, c'est pas l'ivraie. Comme ce qui est important dans nos vies, c'est... Alors, bien sûr qu'il faut éviter le mal, mais la vie chrétienne, c'est pas... Le but de la vie chrétienne, c'est pas d'éviter le mal, c'est de faire le bien. Et sinon, on fausse les choses. Notre vie, c'est pas de essayer à tout prix de plus faire le mal, c'est pas ça, sinon... Alors, bien sûr qu'il faut pas faire le mal. Bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire le bien, c'est pas d'éviter le mal. Ce qui est important, c'est de contempler Dieu, c'est pas de fuir le démon. Ça, c'est pas intéressant de fuir le démon. C'est de contempler Dieu. Du coup, je pense que c'est important de recadrer un peu les choses, de mettre l'objectif là où il doit être. Pas mettre l'objectif sur le mal. Dans l'éducation, c'est un désastre si on voit que ce que les gens font de mal. Bien sûr qu'il faut... Il faut corriger, hein. Je dis pas qu'il faut pas corriger. Mais notre vie, c'est pas lutter contre nos défauts d'abord. C'est développer toutes les qualités que le Seigneur, tous les talents que le Seigneur nous a confiés. C'est d'abord ça. Donc, mon premier point, c'est de réajuster un peu les choses, de mettre Dieu au centre, pas le diable au centre, de mettre le bien au centre, pas le mal au centre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est sur la patience, qui n'a pas besoin de faire des progrès dans ce domaine de la patience. On est tous pareils, hein. C'est une grande illusion que d'imaginer un monde sans mal. Et toutes les idéologies, ça, voilà, on veut éliminer le mal. Alors, il y a une citation que je peux vous reprendre de Benoît XVI, il me semble. Ah oui. Toutes les idéologies du pouvoir se justifient ainsi, justifient la destruction de ce qui s'oppose au progrès et à la libération de l'humanité. Mais le monde est racheté par la patience de Dieu et détruit par l'impatience des hommes. Voilà. Alors, ce point sur la patience me semble vraiment important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette querelle des donatistes. Alors, c'est ancien, hein, c'est du temps de saint Augustin. Il y avait une forme d'élitisme. Les donatistes voulaient une église de purs, et tous ceux qui étaient impurs, on les mettait de côté. Finalement, on finit par beaucoup restreindre les choses, hein. À la fin, il n'y a plus grand monde, hein. Il n'y aurait que la Sainte Vierge, à la limite. Mais voilà. Ou même, j'aime bien cette réflexion de Erasme à Luther. Alors, Luther dit à Erasme, mais tu devrais quitter l'Église catholique, tu vois pas comment elle est corrompue, les scandales, tout ça, voilà. Et voilà la réponse d'Erasme. Je supporte cette Église dans l'espérance qu'elle devienne meilleure, car elle aussi est obligée de me supporter dans l'attente que je devienne meilleure. Voilà, cette impatience et vouloir un monde sans mal, ben c'est pas réaliste, tout simplement, parce que le monde est imparfait, voilà. Et c'est pas l'heure du jugement, c'est l'heure du changement. Hein, le bon Dieu, s'il nous donne de vivre aujourd'hui, c'est pas, il veut pas nous juger aujourd'hui. Il pense qu'on peut encore se convertir, on peut encore évoluer. Et il est patient. Hein, mais il est patient pas en espérant qu'on s'améliore, bien sûr. Et nous aussi, nous sommes invités à faire de même avec les autres. Et ça, c'est une composante de la patience qui est l'humilité. Parce que, voilà, ça ne va pas à notre idée. Il faut se mettre au rythme de Dieu et non pas au rythme de notre volonté propre. Ça, c'était le deuxième point sur la patience. Combien est importante la patience. Et le troisième point, c'est sur la miséricorde. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait cet ennemi qui sème de livrer dans le champ? Pourquoi Dieu tolère-t-il qu'il y ait du mal, qu'il y ait des choses imparfaites? On préférait le meilleur des mondes, voilà. Pourquoi finalement? La réponse est tout à fait essentielle. Parce que c'est un lieu où nous sommes formés à la miséricorde. Et que la miséricorde, c'est au cœur de Dieu. Et que si nous ne sommes pas confrontés au mal, il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne serons pas miséricordieux. Donc ce n'est pas un hasard que nous sommes confrontés au mal. Ce n'est pas quelque chose qui a échappé. Ah zut, j'aurais dû éviter, mettre une clôture pour qu'ils ne viennent pas se mettre livrés. Non. Et vous connaissez ce verset de saint Paul, « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, c'est pas un hasard qu'il y ait du mal. Nous, on voudrait à tout prix enlever le mal et puis ça irait mieux, mais non. L'important, l'enjeu, c'est que notre cœur se développe selon le cœur de Dieu. C'est ça l'enjeu. C'est pas d'abord d'enlever le mal. C'est d'abord de l'extirper de notre cœur, de notre cœur dur et implacable, de l'extirper de notre cœur intransigeant. C'est ça l'enjeu. Pour rester dans le domaine agricole, que j'aime bien, quelle serait la semence idéale? Vous voulez semer du blé? Qu'est-ce que vous choisissez comme semence? Alors, je vous donne deux semences. Une semence qui a été mise, éprouvée en laboratoire, donc on a fait tout pour qu'elle soit complètement, qu'il n'y ait aucun parasite, aucune intempérie, pas de coup de vent, pas trop de pluie, pas trop de soleil, ou voilà, tout ce qu'il faut. Ou alors une semence qui a été éprouvée dans une terre. Voilà, alors elle a dû faire avec les intempéries, le temps qui ne nous convient pas forcément, les parasites, les mauvaises herbes, etc. Quelle est la meilleure semence? C'est pas celle qu'on a élevée dans la serre toute protégée. C'est celle qui a pu prendre le dessus par rapport à toutes les agressions, on pourrait dire, qu'elle a pu subir. Mais c'est pareil pour notre vie. Quelle est la personne que Dieu aime? C'est pas celui qui a été protégé du mal et puis du coup, voilà, il a même pas pu exercer sa miséricorde. C'est celui qui, dans la situation de vie où il a eu des choses difficiles, mais par la grâce de Dieu et aussi parce qu'il le voulait, alors il a pu ressembler davantage à Dieu. Donc, le mal n'est pas un accident de parcours purement et simplement. Dieu s'en sert pour nous faire grandir. Ceci dit, on préférait qu'il n'y en ait pas trop quand même de mal, on est tous d'accord. Hein, mais du coup, c'est une autre tournure d'esprit. C'est Jean Toller qui disait, un homme miséricordieux est un homme véritablement divin. Voilà, parce que c'est ce qui nous fait ressembler à Dieu. Hein, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors, comme conclusion, je vous invite à poursuivre ce changement de mentalité auquel nous sommes appelés, hein, au lieu de nous lamenter, de nous désoler devant le mal, de grandir dans notre foi en Jésus mort et ressuscité, qui est venu, qui a déjà vaincu le mal, et de regarder le mal plutôt comme un défi pour voir comment, avec la grâce de Dieu, on peut aller plus loin. Notre fondateur aimait bien la Sainte Vierge, et la qualité principale, je pense, qu'il voyait en elle, c'est justement sa miséricorde. Voilà ce qu'il disait. « Je comprends que le diable la redoute, car elle sait attirer la miséricorde de Dieu sur presque rien. C'est une chiffonnière divinement habile. Elle trouve toujours quelques petites choses. Elle les dort. » Voilà, c'est la Sainte Vierge qui sait qu'on est bien pécheur, hein, prier pour nous pauvres pécheurs, mais qui nous aime et qui sait tirer le meilleur de nous. Alors demandons à Marie de lui ressembler, puisqu'elle-même ressemble au Seigneur, à Dieu. Amen.